Bonjour. Après les deux présentations que vous avez eues avant, qui vous ont présenté un petit peu l'activité de Cyber Threat Intelligence, nous, on va parler plutôt des problématiques de vie privée et de protection des données personnelles. Donc, vous avez pu voir dans les deux présentations d'avant qu'on pouvait traiter des données personnelles. Et notre démarche n'est pas en fait de venir vraiment avec des solutions finies. On est en pleine exploration. Et c'est plus vous présenter les pérégrinations de deux techniciens face à des problématiques juridiques et organisationnelles. Donc on n'est pas des juristes, désolé d'avance. Et ensuite, le cas sur lequel on a voulu se concentrer, c'est la création d'une start-up. Pourquoi? Parce que ça nous permet d'avoir un cadre relativement restreint pour notre étude, comme dans un laboratoire de recherche, mais le côté start-up, du coup, inclut une notion de commercialisation qui du coup découle des problématiques particulières dans le cadre de la RGPD et de la monétisation de données personnelles. Donc, pour nous présenter, je m'appelle Ronan Mouchou, je suis chercheur au sein de d'une équipe de recherche de Kaspersky Lab, spécialisé principalement dans l'analyse des des APT. Je vais laisser mon collègue se présenter.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Anash Chana, je suis consultant en sécurité de l'information au sein du groupe Novidis. Je vais commencer par vous présenter le plan de cet exposé. Donc, on va commencer par une introduction, donc comment cette réglementation, qu'est-ce qu'elle va apporter de nouveau. Après, donc, on va se concentrer sur notre cas pratique. Donc, vous expliquer quelle est l'infrastructure technique utilisée par des analystes CTI, donc en termes de collecte, etc. Après cet exposé, on va voir quelles sont, on va dire, les considérations juridiques et organisationnelles auxquelles cette nouvelle start-up va être confrontée pour attaquer, entre guillemets, ce marché de la CTI. Et par la suite, nos réflexions et quelles sont les réponses techniques auxquelles on a pensé pour couvrir un peu être conforme à ces obligations-là. Après, on va changer par rapport à l'évolution, on va dire, des coopérations publiques-privées en termes de sécurité. Après, donc, notre vision du paradoxe de la société dans laquelle nous vivons actuellement, ainsi que les actions de coopération qui peuvent venir par la suite.
Donc du coup, pour vous expliquer un petit peu l'histoire de notre recherche, dans quel contexte on l'a fait. Donc Anas et moi, on est amis depuis quelques années, et on était un soir en réunion informelle. Donc comprendre, on était accoudés au bar à s'enfiler des bières, et au bout d'un moment, on échange, bon Ronan, qu'est-ce que tu fais? Moi je suis toujours à faire de la threat intel, blablabla, et toi Anas, qu'est-ce que tu fais? Moi je suis sur la RGPD. Ah bon, qu'est-ce que c'est intéressant? C'est la protection des données personnelles, etc. Et les bulles aidant, on s'est dit, mais en fait, en CTI, on récupère plein de données personnelles sur les attaquants. Et donc, première question, par exemple, comment est-ce qu'on va récupérer des consentements de l'attaquant pour traiter ces données, etc. Donc en fait, on est parti un petit peu de ce point-là, et de questions qui peuvent paraître un petit peu bêtes ou simples comme ça. Et donc, pour en exposer une, par exemple, sur le caractère privé d'une donnée, on a essayé de se poser la question, est-ce qu'une adresse IP est une donnée à caractère personnel? Donc c'est vrai que dans l'imaginaire collectif français, on va répondre strictement oui, d'autant plus que donc les gens qui avancent cela se basent sur l'avis de la Cour de justice européenne de 2016, qui a traité un cas où les gens n'ont pas forcément lu la totalité de la jurisprudence et ont pris comme un strict oui, c'est une donnée à caractère personnel. Donc pour vous expliquer vite fait le cas, il y avait un citoyen allemand qui était un activiste du parti pirate qui visitait des sites web du coup de son Landers allemand, et ce site web collectait les adresses IP utilisées pour se connecter au site web à des fins de sécurité. Et donc Monsieur M est allé voir devant la justice allemande et il a fait, selon la directive 95/46 EC qui est l'ancêtre de la RGPD, une adresse IP, donc dans son cas en plus c'était une adresse IP dynamique attribuée par un FAI. Donc une adresse IP selon cette directive est une donnée à caractère personnel. Vous collectez mon adresse IP, vous devez me demander mon consentement. Donc je vous invite vraiment à lire soit notre papier où on vulgarise un petit peu le truc, soit la source. Et en fait, la Cour de justice européenne, qui a été appelée pour avis par la justice allemande, a répondu « Oui, une adresse IP dynamique est une donnée personnelle, si. » Et il y a une condition. Et c'est là où c'est extrêmement intéressant. C'est une donnée personnelle si ça vous permet d'identifier un individu avec des données additionnelles détenues par une tierce partie, première partie de la réponse, et que nous avons les moyens légaux de demander ces données au FAI. Et l'État allemand, ayant les moyens légaux d'aller demander à un FAI la relation entre une adresse IP dynamique, une time frame d'usage, et une adresse IP, pour l'État allemand, l'adresse IP de M. M est une donnée à caractère personnel. Par contre, si moi, par exemple, Kaspersky, j'ai cette adresse IP, je n'ai absolument aucun moyen légal d'aller faire une requête auprès du FAI pour avoir ces données d'identification. Et donc, pour moi, une adresse IP, du coup, ne serait pas une donnée à caractère personnel. Et la deuxième partie de la réponse, c'était par rapport au consentement de la collecte. C'était par rapport à la récupération du consentement vis-à-vis de la collecte de l'IP de Monsieur M. Et donc, là-dessus, la Cour de justice européenne a répondu que c'est reconnu qu'on peut la collecter sans demander le consentement pour exécuter ou faciliter des prestations commerciales, mais que l'opérabilité du service, donc comprendre le maintien en conditions opérationnelles, etc., pourrait, donc le mot en anglais qui avait été utilisé, c'était « might », pourrait justifier l'exploitation de données personnelles sans la prise de consentement. Mais on est encore dans du conditionnel. Et donc à partir de là, on comprend que on pense comprendre que une donnée n'est pas, enfin qu'une adresse IP n'est pas stricto sensus à caractère personnel, mais qu'elle a un potentiel de caractère personnel. Et donc à partir de là, on va se poser la question sur d'autres types d'indicateurs qu'on peut utiliser en CTI. Donc, par exemple, une adresse Bitcoin, si je la génère sur mon PC moi-même, tout seul, donc je suis le seul à connaître ma vraie identité. Par contre, si je vais passer sur une plateforme d'exchange type Coinbase ou Bitcoin, pour ouvrir un compte et commencer à acheter des bitcoins, etc., je fournis un justificatif de domicile, je fournis une carte nationale d'identité, et donc une adresse bitcoin d'un point de vue de Coinbase ou de bitcoin, et tu serais une donnée à caractère personnel. Et donc, à partir de là, on a compris qu'il y avait pas mal de problématiques et de questions à se poser, et on était un petit peu gênés, puisque donc on a eu deux excellentes présentations avant qui présentent vraiment la CTI... d'un point de vue vraiment avancé, vraiment mature. Sauf que on est encore en train de se chercher, c'est assez récent. Mais nous, on pense qu'il faut continuer à développer la CTI, qu'on n'assimile pas à ce qu'on va appeler le renseignement d'intérêt cyber, qui pour nous est plus du coup de la threat intel fait par un acteur étatique. Et comme il y a une volonté de l'État français de vouloir développer ce renseignement d'intérêt cyber, mais que historiquement, les personnes qui ont principalement lutté contre le cybercrime dans le cyberespace sont des opérateurs privés, et que le rôle de l'État était, on va dire, un petit peu cantonné à l'application de la justice, et on pense que nous, en tant que privés, on a un rôle et une certaine maturité dans ces choses-là, et qu'on a aussi, du coup, une certaine légitimité pour continuer le développement de cette activité, afin aussi de supporter le développement étatique du renseignement d'intérêt cyber.
Alors, pour expliquer un peu l'impact de cette réglementation sur cette activité CTI, on va prendre un peu de hauteur et on va voir quelles sont ces obligations un peu macro de cette RGPD. En fait, c'est une révolution. Pourquoi ? Parce que c'est en fait pour plusieurs obligations. Donc une obligation, donc elle est constituée de plusieurs articles. Chaque article, et on va dire la majorité des articles, ont à la fois des considérations juridiques, organisationnelles et techniques. Enfin, moi, je suis pas juriste, et c'est la première fois que je vois dans un texte de loi un article qui parle de mise en place d'un mécanisme de sécurité, etc., filtrage, etc. Donc, ces considérations-là, donc, ils vont, on va dire, imposer à notre start-up de mettre en place des actions à la fois juridique, organisationnelle et technique. Pourquoi faire ? Pour qu'à la fin, construire son dossier de preuve, parce que quand l'auditeur de la CNIL va venir toquer à la porte pour dire bon, est-ce que vous êtes conforme ? Donc c'est ce dossier de preuve qu'on va fournir à notre auditeur. Donc on va prendre un exemple juste pour voir comment tout ça va s'articuler. Donc validité de consentement. Donc chapitre 2, article 7. En termes de considérations juridiques, il faut revoir nos contrats, il faut revoir nos CGU sur nos sites institutionnels, etc. Donc sur cette partie-là, les actions, c'est d'intégrer des mentions spécifiques à cette réglementation en termes de acceptation de consentement, enregistrement de consentement, et offrir et proposer des informations concernant le fameux DPO qui est, on va dire, le chef d'orchestre de conformité de chaque entreprise. Après, donc sur le volet processus, donc c'est tout ce qui est processus de retrait de consentement, par exemple, parce que maintenant dans un article un alinéa de cet article, il disait que le consentement doit être aussi facile à donner qu'à retirer. Donc maintenant, pour le calquer cette phrase sur, on va dire, techniquement, réellement, comment ça se passe, vous voyez la case à cocher accepter les consentements. Donc en fait, maintenant, les responsables de ce traitement-là sont obligés de faire une action aussi facile qu'un coche de case pour retirer le consentement. Donc voilà, c'est un peu sur cette phase-là, donc processus, responsabilité, donc quels sont les processus à mettre en place pour permettre aux utilisateurs, à nos clients, de retirer leur consentement, par exemple, et désignation des responsables, etc. Après, donc ça, c'est la partie organisationnelle. Sur la partie technique, c'est quels sont les moyens techniques qu'on va mettre à disposition de nos clients, fournisseurs, enfin, les personnes concernées auxquelles on traite sur lesquelles on a des informations personnelles, quels sont les mécanismes techniques qu'on va mettre à leur disposition pour retirer leur consentement. Et bien sûr, donc tout ça va nous permettre de constituer notre dossier de preuve. Donc en termes de modèle de contrat, en termes de processus, qui sont les responsables de traitement qui doivent être contactés par les personnes concernées pour retirer ou donner le consentement. Donc voilà, ça c'est une, pour vous redonner une vision un peu globale et macro sur ce qui attend notre petite start-up qui veut aller, qui est motivée, qui veut aller intégrer ce marché et proposer des services CTI. Donc, en regardant tout ça, donc vous allez voir d'un point de vue technique aussi comment ça va être impacté.
Donc ici, on a essayé de représenter une architecture, on va dire, un petit peu type de CTI, donc avec une partie collecte qui va à la fois se faire sur de la source ouverte, donc accessible à tout le monde, et une partie collecte, on va dire, avec des moyens privés, donc qui sont représentés dans cet exemple par un honeypot. On va avoir une partie, donc on va en source ouverte, on va par exemple collecter ou faire des requêtes vers des acteurs tiers, type VirusTotal, Domain Tools, PassiveTotal, etc. On va éventuellement récupérer des leaks de données. On va éventuellement aller parcourir les réseaux sociaux. Au niveau de la transformation, on va avoir des bots, on va dire, qui font un petit peu de la fouille de données et qui vont essayer de découvrir des choses dans les ensembles de données et qui vont piloter nos automates de collecte. Donc ça, c'est aussi pour représenter un petit peu, et être franc là-dessus, c'est assimilable à du tracking, voire du profilage, qui tombe dans des cases très spéciales de la RGPD. Il y a la phase d'analyse humaine, où en fait on va traiter manuellement ces données. Et à la fin, à la fois parce qu'on est une start-up, mais aussi parce qu'on fait, on est dans une activité d'intelligence, le produit final, le but est de produire un produit final. Et nous en avons deux, donc un produit plus ou moins technique qui vont être des règles de détection, et un produit plutôt sémantique qui vont être des rapports d'investigation, comme les camarades d'Airbus ont présenté au début. Et pour tout ça, il faut une infrastructure de stockage, voire de dissémination. Donc vous pouvez la coder vous-même. Ici, on a choisi de représenter MISP, qui est une solution open source et très mature, et qui commence à devenir, à notre avis, un des standards en Europe. Et donc, ça, c'est ce qu'on a à peu près aujourd'hui. À quelque chose près, c'est quand les gens font de la CTI, c'est un petit peu ce qu'ils mettent en place. Et donc, on va essayer de voir quelles problématiques, concrètement, entre l'existant ici, vers quoi on doit aller, quelles problématiques on a, et quelles opportunités ou solutions techniques on va pouvoir mettre en place pour combler le gap entre une infrastructure CTI pré-RGPD et une infrastructure CTI post-RGPD.
Alors, donc, on a vu on peut considérer les petits cercles comme des traitements réalisés au sein de cette activité-là, donc collecte, transformation, analyse et production. Donc les problématiques, on va commencer par la durée de conservation. Donc durée de conservation, au niveau de la réglementation, il y a rien qui nous dit, pour vos indicateurs qui intègrent des données à caractère personnel, combien de temps vous pouvez les garder chez vous, parce que contrairement à des traitements comme la vidéosurveillance, et là c'est la durée de conservation est de l'ordre de la semaine, donc c'est bien défini, c'est dans la loi, etc. Sauf que si on reprend les textuellement, on va dire le texte, la réglementation, il y a rien qui nous indique quelle est la durée de conservation pour nos données à caractère personnel. Après, donc nous, on est en termes de licéité, donc c'est la légalité de ces traitements, en termes de cyber renseignement privé, est-ce que c'est une activité légale en termes de on va dire traitement, juste si on prend d'un point de vue traitement des données à caractère personnel, est-ce que on est dans la légalité. Après, en termes de consentement, comme disait Roland, comment on va demander le consentement? Donc, dans nos activités, il y a la partie, on va dire, renseignement. On va aller chercher des informations sur un attaquant. Le processus de recherche d'indicateurs, etc. Comment on va collecter ce consentement? Après, on a deux phases aussi. On a, quand on traite, par exemple, des leaks de bases de données, on a des informations à caractère personnel, donc on a des adresses mail, etc. Là, on a deux problèmes. Déjà, est-ce que d'un point de vue proportionnalité, est-ce qu'on est capable de mettre en place et d'investir afin de collecter ces informations et de notifier ces gens-là pour leur dire on a trouvé vos informations sur Internet, est-ce que vous nous donnez votre consentement pour les traiter? Il y a aussi la véracité et la validité plutôt de ces informations-là, comme a présenté Yvan, on peut complètement se baser sur ces travaux pour voir quel est le lien entre ces informations-là, est-ce qu'elles sont valides, etc. Donc c'est un gros problème en termes de consentement. Oula. Bon. En termes de droits des personnes concernées, comment on va donner à ces, supposons qu'ils ont nous donné leur consentement pour traiter leurs données, mais comment on va leur permettre d'appliquer leurs droits? Est-ce que les informations de communication, comme j'ai dit initialement, est-ce que ce sont des informations valides, etc. Donc voilà, ça pose un réel problème d'application, on va dire textuelle de cette réglementation au niveau d'activité CTI. Après, en termes de privacy by design et by default, donc comment intégrer ce paradigme de privacy by design et dans l'ensemble du processus de traitement d'indicateurs. En fait, il y avait une erreur. En fait, la problématique devait s'afficher et après l'approche pour chaque problématique. Donc, je vais reprendre un peu. Donc, comment nous on a trouvé pour essayer de couvrir un peu ces problématiques-là. Donc en termes de durée de conservation, c'est vrai, il y a rien qui est écrit, mais si on reprend les informations de la CNIL et les recommandations de la CNIL, donc chaque donnée à caractère personnel collectée, qui n'est pas traitée, doit être supprimée. Il n'y a pas de... On garde la donnée personnelle au cas où. Ça n'existe pas. Donc une donnée à caractère personnel, si on la traite pas, on doit la supprimer. Et du coup là, on peut voir avoir une idée un peu vague sur comment et quelle est la durée de conservation de ces données là. Après donc la licéité des activités de cyberenseignement, en fait on a cherché un peu, on a relu cette réglementation. On va dire une dizaine de fois. Textuellement, il n'y a rien qui montre, qui est spécifique à ces activités qui la rendent légales. Par contre, si on va lire la LPM, il y a les 20 considérations par rapport à la LPM, et là on voit que la CTI elle va couvrir un ensemble, un panel d'obligations au niveau de la LPM. Et après, en relisant cette réglementation une dernière fois, on a vu au niveau du considérant 49 de la GDPR que toutes les activités, que ce soit de SOC ou de CSIRT, on n'est pas obligé de demander le consentement. Donc voilà, ouf, on est tranquille sur ce côté-là. Après, donc en termes de droits des personnes concernées, là, on n'a pas trouvé de solution. Comment on va dire aux gens, comment on va permettre aux gens et aux personnes concernées d'appliquer leurs droits? Donc pour nous, la seule solution, c'est une solution, on va dire, purement technique. Et là, ça rejoint encore une fois les travaux d'Yvan en termes d'anonymisation d'informations personnelles. Donc voilà, c'est une solution purement technique et par la suite Roland va nous présenter un panel de solutions techniques pour couvrir l'ensemble de tout ça. Après, en termes de processus et en termes de politique, etc. On peut considérer ces activités-là comme n'importe quelle activité, ajouter des jalons, typiquement des jalons DCP donnés à caractère personnel pour dire dès que le voyant s'allume, on va intégrer un schéma ou un sous-processus spécifique pour permettre et on va dire mettre en application cette privacy by design, etc. Et aussi mettre en place l'ensemble des mécanismes de sécurité technique comme on fait dans n'importe quelle entreprise pour protéger ces indicateurs et protéger cette information à caractère personnel. Donc voilà, ça c'était notre vision. Désolé pour le spoil parce qu'à un moment on devait présenter problématique et approche pour chaque problématique. Mais voilà, c'était on va dire notre réflexion sur chaque problématique. On a pris les plus grandes. Au niveau de cette réglementation, chaque considération, on trouve que c'est en complète contradiction avec des activités. Ça va freiner des activités CTI, ça va limiter l'expansion et le développement de ce type d'activité si on veut appliquer cette réglementation textuellement. Comme je disais, Renaud va nous présenter des solutions techniques à nos problématiques.
Donc du coup, pour essayer techniquement et pas que dans les process, et justement éviter que ce soit que l'organisationnel qui s'empare de la chose et puis que le risque technique, on le foute simplement en budget risque, il nous paraissait important d'apporter des réponses vraiment techniques. Et donc pour ça, on n'a rien inventé et on s'est basé sur des retours d'expérience, notamment du projet Virtuoso européen, qui est un projet de collecte aux INT à des fins de sécurité, pas que cyber, enfin aussi de sécurité intérieure. Et donc les grands principes qui en ressortaient, le premier c'était de minimiser, donc c'est-à-dire minimiser la quantité de données personnelles que l'on peut traiter, et ce dès la collecte. Donc avec les modes de big data, etc., etc., on nous a beaucoup dit bon bah vous collectez tout et ensuite vous triez. Nous on se présente vraiment en porte-à-faux par rapport à ça, et on pense que et en plus pour la threat intel c'est un gain. C'est il faut d'abord sélectionner les indicateurs ou les types d'informations que vous voulez récupérer, et plutôt que de tout ramener et d'avoir éventuellement des effets de bord sur des données personnelles qui se retrouvent dans un jeu de données. Et ensuite on peut également minimiser, on va dire, l'impact ou le potentiel de caractère personnel d'une donnée en passant par des processus de pseudonymisation ou anonymisation. Ensuite, une des bonnes pratiques est de séparer donc tant bien le stockage, bien évidemment, pour éviter qu'un attaquant y rentre dans une base de données unique et il ait accès à tout. Mais il faut également penser, et surtout pas oublier, au traitement. Donc c'est pareil, si on a 10 bases de données et qu'au final le traitement se passe dans un seul nœud, l'attaquant il va pas aller s'emmerder à faire le tour des dipôts. Il va juste aller à l'endroit unique où le traitement est fait. Il aura accès à toutes les informations. Ensuite, le principe suivant est de, bon, essayer de le traduire en français en tant que groupé, c'est-à-dire en fait on va retirer le caractère ou la référence ou l'attribution individuelle d'une donnée pour le ramener à un niveau d'un groupe. Dans l'industrie antivirus, vous entendez du coup parfois parler de groupe APT, etc., etc. Et on va pas vous donner. Enfin, on n'a pas vocation à vous donner des fiches personnelles et individuelles sur les acteurs de ce groupe, parce que bon, déjà techniquement, on n'est pas capable de le faire vraiment, et puis c'est pas notre rôle. On met un masque pour retirer le caractère individuel de la donnée. Par contre, on peut la considérer au niveau du groupe. Et ensuite, la dernière chose à faire, c'est de cacher, donc soit par chiffrement ou transformation non réversible, donc de la signature. Et on peut également penser, si on traite des choses vraiment, vraiment sensibles, ou qu'on a affaire à des menaces extrêmement avancées, à des techniques de brouillage réseau pour éviter de l'inférence à partir de communications même chiffrées, ou du brouillage statistique de données quand on n'a pas besoin d'avoir une réalité, une véracité au niveau individuel, mais qu'on a besoin d'une véracité au niveau d'un point de vue global d'un set de données. Et ensuite, pour tout traitement, bien sûr, donc il faut mettre en place des mesures de contrôle, soit des contrôles des actions ou contrôle des accès. Ensuite, bah, bien entendu, il faut implémenter ces choses-là. C'est bien beau de vouloir, de faire un dossier de preuve et faire des vœux pieux, mais il faut l'implémenter techniquement. Et dernièrement, bah, pour pouvoir remplir notre dossier de preuve, il faut être capable de démontrer à la fois la mise en place et en même temps l'efficience des mesures que l'on a mises en place. Donc parmi ces réponses techniques, y a plusieurs choses qui sont assez connues: anonymisation, pseudonymisation, le chiffrement, les contrôles d'accès, etc. Vous allez me dire encore une fois, oui, c'est de l'état de l'art, on sait le faire depuis longtemps. Sauf que nous, on est dans des situations un petit peu particulières où, par exemple, la pseudonymisation et l'anonymisation, parfois, va nous empêcher de faire des liens et des enrichissements de données. Donc, comme a présenté par exemple Yvan, on va dire, on se modélise les données comme ayant des distances entre eux. Si la pseudonymisation nous fait perdre ces distances entre les données et du coup la capacité de les évaluer, et ben du coup on n'a plus aucun intérêt à collecter ces données, à faire des processus de traitement. Sur la sécurité et le contrôle, il y a dans la RGPD quelque chose qui est demandé, c'est-à-dire le suivi de la transformation de la donnée. Et donc là, on va se heurter à des problématiques presque sémantiques, où si on me demande, donc par exemple, je suis dans la phase tout à l'heure de transformation, et j'ai une donnée, du coup, l'origine de ma donnée, c'est quoi ? C'est mon processus de collecte ou c'est le site où j'ai collecté la donnée. Et donc on comprend que il va y avoir des problématiques de suivi de la transformation de la donnée lors d'une chaîne de traitement. Et ensuite, pour le chiffrement, bon, les chiffrements des bases, etc., on connaît, sauf que je vous ai parlé des nœuds de traitement qui, eux, peuvent contenir en clair beaucoup d'informations. Et donc là, on n'est pas du tout spécialiste de ça, mais on regarde avec beaucoup d'intérêt des technologies de type chiffrement homomorphique, ou la capacité de pouvoir faire des requêtes dans des bases chiffrées sans que nous n'ayons connaissance de l'ensemble des données qui soient dans un système. Les problématiques avec ce genre de choses-là, c'est que le monde académique et certains industriels sont assez matures ou arrivent à faire des choses avec des chiffrements homomorphes, comme on nous l'a montré hier par exemple, sauf qu'une grande partie de l'industrie, et pas que l'industrie sécurité, l'industrie en général, n'est pas forcément prête à adopter ou à mettre en place des technologies comme ça qui nous paraissent presque de la magie noire, un petit peu pouvoir appliquer des calculs sur des données chiffrées. C'est presque magique en fait pour nous quand on n'est pas dans le domaine. Ça fait faire de la gymnastique. Et donc, un petit peu pour conclure, donc là on va switcher de sujet. En fait, notre problématique, donc je l'ai expliqué au début, c'est pas du tout pour mettre en porte-à-faux le rôle de l'État, mais le cyberespace, même s'il a été effectivement amorcé par les académiciens et les militaires, ceux qui l'ont développé, qui l'ont opéré et qui l'ont sécurisé jusqu'à aujourd'hui, ce sont principalement des acteurs du privé. Et quand on regarde un petit peu l'historique de l'ordre public, de la sécurité intérieure ou de la sécurité générale des États, depuis les années 80, on peut observer une privatisation de la sécurité. Avec les concepts, par exemple, dans les années 2000, donc je crois que c'est en 2003, en France, il y a eu des légiférations sur tout ce qui était ce qu'on appelle les détectives privés, etc., avec le statut d'agent de recherche privé. Et en fait, on est un petit peu bloqué. C'est de savoir si demain, si moi, analyste Threat Intel, je veux continuer à faire mon boulot, est-ce qu'on va pas me demander une accréditation détective privé? Et nous, jusque-là, on a parlé uniquement de la cyber threat intel à but défensif. On peut aussi faire de la cyber threat intel dans des cadres de Red Team, puisqu'on vous a présenté, les personnes de chez Sodi France vous ont présenté qui travaillaient avec une kill chain. Nous, la kill chain, on en bouffe tous les matins au petit-déj. Et en fait, si on nous demande, par exemple, plutôt que de faire une kill chain classique, on nous dit « j'ai envie que vous m'attaquiez comme... » comme APT28 ou comme Turla, fondamentalement, les analystes en cyber threat, on est capable de le faire. Et donc, il y a toute la problématique ensuite de active defense, hack-back, contre-attaque, etc., etc., où en fait, en France, le mercenariat est interdit depuis 2003 aussi, je crois, mais en fait, il y a ces problématiques-là où il y a des pays qui vont clairement dans ce sens-là, et du coup, comment est-ce que ça va s'articuler pour des analystes du privé, et quels vont être nos statuts dans le futur? Donc en continuant, en fait, il nous paraît vraiment important que à la fois le public et le privé on se rapproche sur ces questions-là et on discute et parce que même si on est dans le privé, notre but c'est de faire de l'argent, on reste quand même des professionnels avec une éthique et des idéaux. Et on doit à l'avenir protéger une société qui est assez paradoxale. Donc les termes intégration et translation, ils sont pas forcément très bons, mais on a essayé d'exprimer des sentiments qu'on a, où on a d'un côté une tendance où la technologie elle est intégrée dans nos sociétés, dans nos villes, voire dans nos corps, et d'un autre côté une espèce de translation où les gens ils veulent avoir presque un kill switch, ce côté déconnexion, et où on va mettre la technologie à côté et avoir une très grande maîtrise de la technologie d'un point de vue communautaire, donc les darknets, etc. Peut-être qu'à l'avenir, face justement à des questions de surveillance domestique, etc., sur le réseau Internet, bah, peut-être qu'il y a des gens qui vont vouloir aller vers des espaces ou des réseaux un petit peu privés. Donc un exemple, par exemple, qui est assez intéressant, c'est Mastodon, qui est un espèce de Twitter privé. Et ben, peut-être qu'il va y avoir de plus en plus de systèmes comme ça qui vont se développer. Et nous, défenseurs, on va devoir protéger tous ces gens parce que ça va pas être... Enfin, nous, on pense que ça va pas aller soit dans un sens, soit dans l'autre, mais c'est avec les deux, ils vont se superposer et les gens, ils vont choisir un petit peu à la carte ce qu'ils vont vouloir. Et on va devoir protéger tous ces gens-là dans un espace qui fait intervenir à la fois des prérogatives de l'État et à la fois des capacités du privé. Donc là, bon, c'est vrai que je suis parti un petit peu loin, il me reste peut-être des bières de hier soir, mais je vais repasser la parole à Anas pour vous faire une conclusion plus concrète et du coup, on peut dès maintenant commencer à faire quelque chose.
Merci Romain. Donc là, on vous a présenté un peu notre vision de la problématique et les solutions qu'on a essayé d'apporter. Ça reste un point de vue et nous pensons réellement que, et pour finir cette présentation, nous pensons réellement que nous pouvons tirer profit de l'article code de conduite au niveau de la RGPD, parce que voilà, le législateur était assez intelligent pour voir que faire une réglementation pour protéger des données personnelles, ça n'allait pas marcher parce que voilà, s'il y a des spécificités par secteur, il y a des spécificités par entreprise, etc. Et faire quelque chose de global et figé, ça n'allait pas du tout marcher. Donc pour cela, au niveau de cet article-là, le législateur il encourage à la création de codes de conduite par secteur d'activité, afin de s'approprier cette réglementation et typiquement statuer sur chaque problématique. Qu'est-ce qu'on va faire? Et typiquement, avec Ronan, on voudrait profiter de cette tribune pour lancer un appel à tous les acteurs de CTI, Cyber Threat Intelligence en France, pour entamer ces échanges-là, pour créer un code de conduite. Hier, c'est vrai, on est allé un peu très très loin, on regardait même intégrer des personnes de la CNIL pour créer des packs, donc la CNIL crée des packs de conformité par secteur d'activité, donc les dispositifs communicants, etc. Pourquoi ne pas inclure la CNIL dans cette réflexion, afin de créer des packs de conformité pour le secteur d'activité CTI. Donc voilà, on a voulu profiter de cette tribune pour lancer cet appel afin d'avancer, parce qu'on on pense vraiment que c'est quelque chose qui on peut vraiment tirer profit de cette réglementation et se l'approprier. Et je pense que ça peut, et nous pensons vraiment que ça peut être un levier stratégique pour la France en termes de ses activités, parce que ça reste une réglementation européenne. Si on est leader dans ce schéma, dans cette démarche, et on essaie de modéliser, on sait tous que la guerre, c'est le nerf de la guerre, c'est les standards. Donc dès qu'on standardise quelque chose, on se l'approprie et voilà. Donc je vais m'arrêter là parce que sinon je vais beaucoup parler. Donc merci pour votre attention et j'espère que la présentation vous a convenu.
Merci Ronan, merci Anas.